C'est toujours un privilège pour moi de partager la parole du Seigneur avec vous encore aujourd'hui. Donc je vous rappelle qu'on est dans une petite mini-série sur le vrai disciple. Hein, parce que la Bible parle beaucoup du disciple, de Christ. Et nous avions vu le premier dimanche le vrai disciple et la nouvelle naissance, l'importance de la nouvelle naissance, par là que tout commence. Dimanche dernier, je crois que nous avons parlé du disciple, du vrai disciple et de son engagement dans l'Église, le vrai disciple et l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons voir le vrai disciple et le prix de la consécration, le prix que le maître exige. Et quand on est disciple, quand on dit qu'on est un disciple, on dit quelque part que nous avons aussi un maître et que nous obéissons et que nous suivons un maître. Alors je vous propose de lire, on pourrait prendre plusieurs textes, mais celui que je vous propose est dans Luc chapitre 14. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles, donc dans Luc chapitre 14, nous allons lire des versets 25 jusqu'au verset 33. Luc chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 33. Il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Ou, quel roi, s'il veut faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et vous remarquerez que Jésus donne ici des indications sur ceux qui ne peuvent pas être son disciple. Il dit bien ici, ne peut être mon disciple, il le dit par trois fois. Et donc c'est une chose qui est très importante. Donc on voit bien quand on lit ce texte, il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup pour voir que Jésus dit que être un vrai disciple, eh bien cela exige de payer un prix élevé. Alors bien sûr, Christ a payé complètement le prix exigé par Dieu le Père pour le salut des hommes. Et nous ne pouvons rien faire pour apporter par nos moyens ou par nos œuvres, quoi que ce soit, à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire. La Bible dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Galates chapitre 2, verset 16. Et puis nous lisons encore, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Et puis celui que vous connaissez bien sans doute, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc la Bible est bien claire, l'Écriture est bien claire sur cette vérité. Le salut est l'œuvre entière et complète de Dieu seul. Et l'homme ne peut rien faire pour ajouter quoi que ce soit au salut. C'est une œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ. Cependant, quand nous lisons la Bible aussi, nous voyons que la parole de Dieu dit qu'être chrétien, ça a un coût. Être chrétien, ça a un coût. Le salut est gratuit, mais il en coûte d'être un véritable disciple de Christ. Alors notre texte commence au verset 25 avec ceci: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et on pourrait dire que le personnage de Jésus était somme toute très fascinant à bien des égards. Il avait un franc parler, il avait une certaine autorité qui se dégageait de lui quand il parlait. Je pense que les gens couraient de partout pour l'entendre parler. Ils aimaient beaucoup de choses probablement de lui. Il faisait des miracles et très certainement il suscitait la curiosité. Vous vous rappelez de Hérode, je pense, qui avait demandé à Jésus de faire un miracle pour qu'il puisse voir un miracle. Donc les gens étaient attirés par Jésus, peut-être par curiosité. Et il y a toujours, je crois, des raisons qui poussent à suivre quelqu'un comme Jésus. Ça peut être l'admiration de sa personne, ça peut être la puissance de ses miracles. Et il y a aussi de nos jours, je pense, beaucoup qui seraient tentés de faire route avec Jésus parce qu'ils le considèrent comme un grand humaniste. Je discutais avec un collègue il n'y a pas très longtemps qui me disait: mais moi, je vois Jésus comme un grand personnage, quelqu'un comme l'abbé Pierre, par exemple. Il y a des gens qui voient Christ comme ça, comme quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses. Et évidemment, ça n'est pas difficile d'aimer de faire route avec quelqu'un comme cela. D'autres, peut-être, suivraient Christ parce qu'ils aiment ses citations. Et parfois, on aime comment il a remis à leur place les pharisiens, les scribes, dans des phrases un peu inattendues. Et donc, et les gens peuvent parfois aussi même être satisfaits de leur manière de suivre Christ. Ici, il y avait des gens, nous dit la Bible, qui faisaient route avec Jésus. Jésus faisait route vers Jérusalem, il allait vers la croix, et il y avait des gens qui accompagnaient, qui faisaient route avec lui. Donc, il était satisfait de cette manière de marcher, de suivre Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, n'est pas satisfait de cette manière avec laquelle les personnes le suivent. Et il met cette foule en garde contre toute illusion qu'elle pourrait entretenir. Nous, quand nous mesurons le succès d'un ministère, on le mesure à la quantité de personnes qui y adhèrent parfois. On dit: ah, cette église, c'est béni parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on peut regarder à des endroits. Et pour nous, ça c'est le signe qu'il y a la bénédiction du Seigneur. Mais tout au long de l'évangile, on voit que Jésus opère souvent des tris. Il trie. Et à chaque fois, c'est jamais pour que le nombre grossisse en quantité, mais souvent c'est des cures d'amaigrissement qu'il fait. Quand vous lisez Jean chapitre 6, il y a des gens qui suivent Jésus, et puis à un moment donné, vers le verset 60, voilà, il dit que beaucoup de disciples ont quitté Jésus et puis sont partis, et puis Jésus se retrouve avec les 12, et puis il leur dit: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il y avait du monde, et il termine avec 12. Et à chaque fois, c'est une cure d'amaigrissement. Ici, si on voulait vider une salle, on ne s'y prendrait pas mieux que ce que Jésus fait ici. Il dit aux gens: si vous voulez me suivre, voilà le prix qu'il faut payer. Et il est en train de partir de cette foule probablement immense qui le suit, qui fait route avec lui, et pour leur montrer exactement comment le suivre. Donc aujourd'hui, comme au temps de Jésus sur la terre, je pense qu'il y a des foules qui font route avec Jésus. Elles ne sont pas forcément sur des chemins de terre, mais parfois elles peuvent être assises sur des bancs d'église aussi, en faisant route avec Jésus. Elles ont parfois les yeux rivés sur des miracles, recherchent intensément la répétition des miracles. Elles sont émues par les cantiques que l'on chante à la gloire de Dieu. Elles trouvent les prédications intéressantes et même la compagnie des chrétiens assez reposante. Mais on peut dire que faire route avec Jésus, ça n'est pas marcher avec Jésus. Faire route avec Jésus, ça n'est pas être son disciple. Et c'est ce que Jésus montre ici. C'est très facile de suivre au sein d'une foule. On n'a pas besoin de trop réfléchir ni de trop s'impliquer. Mais ce n'est pas le genre de disciple ici que Jésus recherche. Il veut de vrais disciples, conscients du prix que coûte la vie d'un vrai disciple. De vivre la vie d'un vrai disciple. Il ne cherche pas un grossissement artificiel du nombre des disciples, comme certains peuvent le faire de nos jours, en présentant parfois un évangile souvent allégé en matière grasse, G-A-G-R-A, axe en circonflexe CE, hein, ils le font en enjolivant parfois l'évangile pour le rendre acceptable et accepté par le plus grand nombre. Et remarquons que Jésus ici n'a pas peur de dire franchement la vérité à ceux qui veulent le suivre. Vous voulez me suivre, ça va vous coûter très cher. Et c'est le message pour nous, je crois, ce matin. Ici, le disciple, le vrai disciple, est le prix de la consécration. Alors, premièrement, je voudrais voir avec ce texte que Jésus montre que suivre Christ est une entreprise très coûteuse. Suivre Christ est une entreprise très coûteuse. Versets 26-27, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne met pas son père, » Alors, si vous avez dans votre Bible, peut-être sans me préférer, hein, à la place, « s'il ne met pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et pour souligner ces vérités-là, Jésus donne deux illustrations entre le verset 28 et le verset 32 où il, pour montrer voilà, le caractère coûteux de cette entreprise qui consiste à être disciple de Christ. Il utilise donc deux paraboles, l'une qui met en évidence la construction d'une tour et puis l'autre l'implication dans une guerre. Et il montre ici que suivre Christ est une entreprise très coûteuse, parce que c'est une grande entreprise. Construire une tour, c'est une grande entreprise. Ce n'est pas construire un cabanon, ce n'est pas construire un château de sable, c'est construire une tour. Et ça, c'est une grosse entreprise. S'impliquer, s'engager dans une guerre est une grosse entreprise et extrêmement coûteuse. C'est pas, le frère ici, il est militaire. Hein. Donc, on sait que quand l'armée française doit s'engager quelque part dans un pays, ça coûte extrêmement cher. Les Américains savent ce que c'est que ce que coûte une guerre. Et quand on veut construire des choses, des grands monuments, ça coûte très très cher. Quand je me balade souvent, peut-être dans votre belle région, et qu'on voit des monuments qui datent depuis très longtemps, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour construire cela? Et souvent je me dis, mais ça a dû coûter très cher, non seulement en argent, mais en vie humaine. Parce que c'est une grande construction, c'est une grande entreprise. Et je crois que ce que Jésus montre ici, c'est que vivre la vie de disciple est une grande entreprise. Elle est coûteuse parce que c'est une grande entreprise. Être disciple de Christ est une grande entreprise. Est-ce que vous croyez cela? C'est une entreprise qui a une portée éternelle. C'est la mission que Jésus a laissée à ses disciples et à l'Église. Allez, faites de toutes les nations, quoi, des disciples. En faisant quoi? En les baptisant, d'accord? Et en les amenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis il ajoute, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il avait commencé en disant, tout pouvoir m'a été donné. Il faut tout le pouvoir divin pour faire un disciple. Il dit à ses disciples, allez, il dit à l'Église, allez, faites des disciples, mais pas avec votre propre force. Il dit, tout pouvoir m'a été donné pour cela. Et je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc c'est une très grande entreprise. Ce n'est pas une mince affaire que de faire des disciples. Et est-ce que vous trouvez que faire des disciples ou vivre une vie de disciple est une petite entreprise? L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, verset 28-29, il dit un peu la même chose quand il parle que son ministère, son travail, c'est d'amener à Christ tout homme parfait. Et il dit, c'est ce à quoi je travaille avec la force de Dieu qui agit en moi. C'est quelque chose de très grand. Quand il parle aux Galates, il dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et c'est quelque chose qui est une grande entreprise. Ça n'est pas une petite affaire que d'être ou que de faire des disciples. Donc suivre Christ est une grande entreprise coûteuse parce que c'est une grande entreprise. Mais suivre Christ est une entreprise coûteuse aussi parce qu'elle exige beaucoup du disciple. Cela exige beaucoup du disciple. La construction d'une tour ou la conduite d'une guerre exige toutes les facultés. Ce que Jésus dit ici. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer le prix? Ça veut dire qu'il y a, il y a, Il faut s'asseoir parce que cela mobilise beaucoup de choses lorsque l'on veut construire une tour ou mener une guerre. Et d'emblée, le Seigneur met l'accent ici sur le rapport qui doit exister entre le disciple et sa propre personne, la personne de Christ. À cette foule qui fait route avec lui, il parle de la nature de la relation personnelle que doit entretenir le disciple avec Christ lui-même. Il y a une foule qui le suit. La Bible dit une grande foule suivait Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi. Il parle d'une relation personnelle. C'est ça que ça veut dire, suivre Christ. Alors il dit, si c'est ça que vous cherchez. Alors là, ça coûte. Et c'est une grande entreprise. C'est une entreprise coûteuse parce que ça va exiger beaucoup de vous. Ça va exiger que vous placiez l'amour du disciple, l'amour pour Christ, pardon, au-dessus de toutes les affections. Ça exige que l'on place l'amour pour Christ au-dessus de toutes les affections. C'est ce qu'il dit, regardez, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, ou s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire que l'amour pour Christ doit être au-dessus de toutes les affections naturelles que nous pouvons connaître dans ce monde. Haïr ici, comment comprendre ce mot? Ça ne veut pas dire, bien sûr, développer une haine pour la famille, parce que, bon, on ne peut. Quand on lit la Bible, il faut toujours la lire dans son ensemble. Hein. Et quand on lit l'Écriture dans son ensemble, on voit bien que la Bible parle d'honorer son père et sa mère, et c'est le premier commandement avec une promesse. Et l'apôtre Paul, quand il parle au mari, il dit au mari d'aimer leur femme. Et puis, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, le soin que doit prendre un disciple pour sa famille est bien présent dans la parole de Dieu. Il doit aimer, il doit choyer, il doit prendre soin, il doit instruire, etc. Mais ici, ce que Jésus dit, ce qui est traduit peut-être dans votre Bible, il dit que le disciple doit préférer son amour, il doit aimer plus. Dans Matthieu chapitre 10, il le dit dans ce sens-là, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est une question de priorité, à qui on donne la prééminence. Il s'agit de placer l'amour pour Christ au-dessus de toutes les affections, à tel point que si la puissance du lien familial, par exemple, vient à s'opposer à la relation du disciple avec Christ, eh bien c'est la relation avec Christ qui doit l'emporter. Les affections familiales sont peut-être sans doute les plus fortes que nous puissions vivre sur la terre. Je crois, bon, des fois il y a des difficultés dans les relations familiales, mais c'est parce que ce sont des liens qui sont forts. Hein. Quand on n'a pas de difficulté à nous séparer d'un collègue, des fois, bon, oui, on a des difficultés au travail, mais après, bon, ça ne nous cause pas forcément des ulcères d'estomac. Mais quand c'est avec la famille, on a des difficultés, mais ça nous tord, ça nous dans tous les sens. Pourquoi? Parce que ce sont des liens qui sont très forts, et quand ça vient à ne pas bien fonctionner, cela nous touche profondément. Et donc les affections familiales sont des liens très très forts, et la force de ces relations-là ont souvent tendance à s'opposer à l'amour pour Christ, et même parfois à réclamer la priorité de l'amour sur Christ. L'évangile quand l'évangile pénètre dans un foyer, eh bien l'évangile est confronté premièrement aux affections familiales. C'est ce que Jésus dit par exemple en Matthieu 10, il dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. C'est-à-dire que, et vous pouvez, peut-être vous connaissez, peut-être vous-même, vous avez vécu, ou dans d'autres pays, parfois quand quelqu'un se tourne vers Christ, quand l'évangile pénètre dans un foyer, cela met des divisions parfois dans le foyer. Et des pères rejettent leurs fils, ou des maris rejettent leurs femmes, parce qu'elles se sont tournées, ça va dans tous les sens, hein, je prends que deux exemples, mais on pourrait les mettre dans tous les sens, parce que ces personnes ont accepté Christ. Voyez, et donc le premier lien que l'évangile affronte, c'est le lien familial, bien souvent. Et Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, eh bien, il faut que son amour pour moi soit au-dessus de ses affections, même ses affections les plus naturelles, les plus fortes. Et la famille, comme je l'ai dit, est souvent un premier obstacle qui se dressera vraiment à la pénétration de l'évangile chez l'un de ses membres. Et Jésus dit, ne croyez pas, hein, ne vous bercez pas d'illusions. La paix avec Christ s'accompagne bien souvent de désaccords familiaux et parfois de ruptures douloureuses. Et il faut être prêt, dit Jésus, à payer ce prix-là aussi, si vous voulez être un disciple. Un auteur a dit, nous devons choisir plutôt de déplaire à ceux que nous aimons le plus sur la terre que de déplaire à celui qui est mort pour nous sur la croix. Nous devons choisir plutôt de déplaire à ceux que nous aimons le plus sur la terre plutôt que de déplaire à celui qui est mort pour nous sur la croix. Et je pense que Jésus emploie cette expression vraiment forte pour montrer l'intensité de l'amour qu'on doit lui porter. On comprend quelle est l'intensité des liens qu'on a avec la famille. Et bien, il dit, voilà, l'amour pour Christ se place au-dessus de ça. Si vous voulez être mon disciple, c'est ici qu'il faut placer la barre. L'amour du disciple aussi pour Christ doit être au-dessus de toutes les ambitions. Regardez au verset suivant, Jésus dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Un second domaine donc, dans lequel Jésus réclame la seigneurie est celui, on pourrait dire, de nos ambitions. Il ne suffit pas de venir à Jésus, il faut le suivre. Quiconque dit ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Le vrai disciple doit porter sa croix et suivre Jésus. Qu'est-ce que porter sa croix? On entend parfois des gens dire chacun sa croix. Hein. Moi, je porte la mienne. Hein. Voilà. Et puis, une telle a un mari qui est un peu pénible, elle dit, moi, ça c'est ma croix. Puis un autre, c'est des enfants qui sont parfois insupportables et turbulents et considèrent cela comme porter leur croix. Et pour d'autres encore, bien, certaines souffrances dues à la maladie, bien, voilà, je souffre, je suis dans la maladie, et bien voilà, je porte ma croix. Et pour beaucoup de personnes, porter sa croix consiste bien souvent à supporter des épreuves difficiles. Mais est-ce bien cela le sens de porter la croix? Ce n'est pas le sens, en tout cas, me semble-t-il, qui est indiqué ici. Sinon, tous ceux qui souffrent seraient disciples de Christ. S'il suffit de souffrir pour porter sa croix, on pourrait dire, voilà, ben, je suis disciple de Christ parce que je souffre, je porte ma croix. La croix est un objet de torture romain. Hein, et c'est un objet qui indique la mort, bien entendu. Et le condamné à mort devait porter sa croix. C'était évident pour tous ceux qui le voyaient qu'il était un homme mort. Alors, quand Jésus a été, quand il était sur le chemin du calvaire, il a dû, bon, quelqu'un d'autre l'a porté après, mais il a dû porter sa croix. Et pour tous les gens, on savait que cet homme, il va à la mort. Et donc, à ce moment précis, le condamné à mort, il n'ambitionne pas de créer une entreprise ou de se marier, par exemple. Quelqu'un qui va au bûcher ne pense pas à se marier ou à créer une entreprise. C'est-à-dire qu'il abandonne toute ambition qu'il pourrait avoir sur cette vie, parce qu'il sait qu'il est destiné à la mort. Et donc, porter sa croix dans ce sens, c'est ça le sens d'un renoncement total à soi-même et à toutes les ambitions qu'on pourrait avoir. On ne peut pas dire « je veux suivre Christ », mais j'ai ça comme ambition. Il faut être capable de renoncer à toutes ces ambitions. C'est porter sa croix, c'est suivre Christ et c'est marcher à l'exemple de Christ, l'exemple de souffrance, l'exemple d'humilité. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions, dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Et donc l'association à Jésus-Christ implique l'acceptation de souffrances et même la mort si le Seigneur le demande. Beaucoup ont véritablement donné leur vie pour Christ, ont dû abandonner toutes leurs ambitions et parfois sont morts dans d'atroces douleurs pour Christ. Le Seigneur ne demande pas toujours cela, mais s'il le demande, eh bien, il faut que son disciple aussi l'accepte. Et donc, qu'il fasse une croix sur toutes ses ambitions. Et c'est cela quoi porter sa croix. L'apôtre Paul disait que dans, à la fin de l'épître aux Galates, chapitre 6, il dit qu'il veut se glorifier dans la croix de Christ. Il dit que le monde est crucifié pour lui. Et lui, il est crucifié pour le monde. C'est-à-dire que quand lui regarde le monde, il voit la croix. Et quand le monde le regarde, le monde voit la croix. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'image que je retiens. C'est-à-dire, voilà, il est crucifié avec Christ. Et il n'a pas d'ambition en ce qui concerne les choses de ce monde. Et puis, je dirais aussi que l'amour du disciple pour Christ doit être au-dessus de toutes les possessions. Ce qu'on voit au verset 33, il dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est un autre domaine où la souveraineté du Seigneur doit être aussi exercée dans la vie du disciple. Les possessions sont un rival redoutable, qui tente par tous les moyens de s'interposer entre Christ et son disciple. Et le paradoxe des possessions, c'est que ce sont elles qui nous possèdent. On dit « je possède », mais bien souvent ces choses nous possèdent. Et la parole nous dit ici que celui qui veut être un disciple doit placer l'amour pour Christ au-dessus aussi de toutes son attachement pour les possessions. Nous avons parfois l'illusion de posséder, mais nous sommes souvent possédés par toutes ces choses. Je me rappelle quand on habitait il y a longtemps de cela, la région parisienne, on habite toujours la région parisienne, mais on habitait à un autre endroit de la région parisienne. On était dans un appartement et on avait un voisin et on était sur le point d'acheter une maison. Et ce voisin n'était pas chrétien et puis ma femme, je pense que c'est ma femme qui a parlé avec lui, qui a dit mais vous, c'était un Antillais, donc ça faisait longtemps qu'il était là, il dit mais vous n'avez jamais pensé à acheter une maison. Et il a dit oh, madame, vous savez, on a bien souvent l'illusion de posséder quelque chose. Hein. On pense qu'on va avoir une maison, ça va être à nous, l'appartement n'est pas à nous, la maison va être à nous. Il dit c'est on n'a rien, hein. Ce n'est que de l'illusion qu'on a, l'illusion de posséder. C'est vrai que les possessions créent chez nous l'illusion de posséder quelque chose. Et souvent, eh bien, ce sont elles qui nous possèdent. C'est pour ça que Jésus dit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et donc Dieu, Jésus décrit les richesses, parfois les possessions, comme un maître aussi. Et il dit « Celui qui veut être mon disciple doit se détourner de ce maître-là. Il doit renoncer aussi à ses possessions. » Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on va aller demain à la banque et puis qu'on va vider le compte en banque, etc. Et non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que nous avons doit être mis au service de Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous que cela revient, mais c'est à Christ que cela revient. Et tout lui appartient. Ma voiture lui appartient. Alors, ça ne veut pas le dire simplement. C'est-à-dire que quand je dois le mettre à disposition d'une autre famille pour aider, eh bien, il faut que je le fasse. Ma maison lui appartient. Quand il faut accueillir des gens, même ceux que je ne connais pas. Hein. On a parlé de la troisième lettre de Jean la dernière fois. Hein. Pour les frères étrangers, ben, je dois ouvrir ma maison pour le service de Christ. C'est ça que ça veut dire. Tout ce que j'ai lui appartient. Et c'est lui qui décide de l'utilisation que je dois en faire. Donc, suivre Christ est une entreprise très coûteuse, ce que Jésus montre ici. Puis, deuxièmement, on pourrait dire que suivre Christ exige aussi de considérer attentivement ce qu'il en coûtera. Suivre Christ exige que nous considérions attentivement ce qu'il nous en coûtera. En évoquant la construction de la tour et l'entreprise dans une guerre, le Seigneur Jésus indique qu'il ne viendrait à l'esprit de personne, d'aucun homme sensé, d'agir dans une telle affaire sans s'asseoir et calculer la dépense. Lequel de vous, c'est une manière de dire personne ne fait ça. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, c'est-à-dire entrer dans une entreprise si grande, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et puis après, il dit aussi, verset 31, « Quel roi, s'il veut faire la guerre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » Il y a ici quelque chose que Jésus montre. Il montre que la réflexion doit prendre le pas sur l'émotion quand on suit Christ. La grande foule qui fait route avec Jésus, c'est une foule qui est dans l'émotion. C'est, ouais, il y a des miracles, il y a des choses, etc. Et Jésus dit ici que le christianisme véritable n'est pas une affaire de simple émotion. Le christianisme, la foi chrétienne, s'adresse autant au cœur qu'à l'intellect et à la raison. Et remarquons bien les termes employés ici. Hein. S'asseoir d'abord pour calculer, c'est-à-dire réfléchir, analyser, peser les choses. S'asseoir d'abord pour examiner la possibilité. Donc cela montre qu'il y a une réflexion dans laquelle le disciple doit être engagé. Il y a référence donc à la réflexion, au calcul, à l'estimation. On a pris la peine de s'asseoir pour prendre le temps d'estimer. La foule est sensible à l'émotion, beaucoup plus sensible à l'émotion qu'à la réflexion. Lors de l'émeute d'Éphèse, vous vous rappelez en Actes chapitre 19, la Bible nous dit que, vous vous rappelez, il y avait des gens qui étaient là et puis pendant 2 heures, ils ont crié « Grande est la Diane des Éphésiens !» Ils se sont rassemblés. Et la Bible dit que les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. C'est ce que la Bible dit. On crie grand. Les gens ne savent pas pourquoi. Et la Bible dit la même chose dans Actes chapitre 21, dans une autre situation où l'apôtre Paul est engagé. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, si bien qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est l'émotion qui nous emporte. On est là avec tout le monde, on crie. Et ça me fait penser quand il y a des grèves parfois. Moi qui suis prof, donc les étudiants ils font grève devant. Ils sont en seconde. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire le mot grève. Mais ils brûlent des poubelles, tout le monde se met, on fait « Pourquoi vous faites grève ?» On ne sait pas. Contre la loi El Khomri. Mais qu'est-ce qu'a dit la loi El Khomri ? Ben, on ne sait pas. D'accord ? Mais on fait grève pour que ce n'est pas une bonne loi. Voyez. Et c'est comme ça la foule. Il y a la foule qui se rassemble, on se rassemble et on va avec. Il y a la foule qui suit Jésus, ben on y va aussi avec. On ne sait pas pourquoi on est là. Et la foule agit souvent par émotion. La foule crie « Hosanna !» lorsque Jésus rentre dans Jérusalem. Mais quelques temps plus tard, elle crie « Crucifie-le ». Elle est très versatile, la foule. La foule marche avec l'émotion. Mais Jésus dit « Celui qui veut me suivre, il doit privilégier la réflexion à l'émotion ». Et ça, c'est très important. Jésus indique ici que le christianisme vraiment véritable n'est pas une affaire d'émotion, de décision prise dans l'impulsion du moment, mais doit être pétri de réflexion, de considération, de calcul, tout comme celui qui entreprend de construire une tour ou bien de s'engager dans une guerre. Malheureusement, de nos jours, on joue beaucoup sur les émotions, n'est-ce pas ? On nous dit qu'il faut être à l'écoute de nos émotions. On sollicite de plus en plus nos émotions, laissant de côté, bien sûr, la réflexion. Et j'ai lu que l'Institut national de l'audiovisuel, par exemple, note qu'en 10 ans, le nombre de sujets consacrés aux faits divers dans les journaux télévisés du soir sur les chaînes historiques a augmenté de 73%. En 10 ans, on a augmenté de 73% les faits divers. Oui, tel accident par ceci, une explosion par là, des trucs qui sont comme ça en emporte-pièce. Et un philosophe explique que la raison de cela, c'est de capter l'émotion du téléspectateur. Il dit que l'information n'est plus sélectionnée en fonction de son degré d'importance, mais en fonction de son pouvoir de captation des émotions. Voilà comment les gens, donc quand vous regardez, je veux m'informer. Non, vous ne vous informez pas au journal télévisé. Ce que vous faites, vous vous exposez à des gens dont le seul but est de capter vos émotions, à faire vibrer vos émotions, sans que vous ayez même le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'un sujet ne dure jamais plus que, je crois, 2 ou 1 minute et demie ou 2 minutes. On n'a pas le temps de réfléchir. Et puis on passe du sport à l'attentat de Nice. Vous voyez, on ne réfléchit pas. On est constamment dans l'émotion. Et les choses ne sont pas faites pour que nous puissions y réfléchir correctement. Voilà. Mais souvent pour que nous puissions réagir émotionnellement. Malheureusement, il en est de même dans le milieu religieux. Et parfois, même dans le christianisme. Et c'est très facile de créer l'émotion religieuse. Beaucoup de mouvements savent créer l'ambiance de la foule. Les salles comblent avec des personnages parfois célèbres qui se sont convertis et qui racontent les changements extraordinaires que Christ a opérés dans leur vie. D'autres vous disent combien ils sont devenus riches depuis qu'ils ont rencontré Jésus. D'autres encore vous parleront de la disparition de leur maladie. Et c'est dans cette atmosphère souvent bien feutrée, hein, bien tamisée, qu'on va vous inviter à venir à Christ en levant juste votre main pendant que les musiciens jouent un morceau très agréable à écouter, une douce musique et très émotionnelle. Certes, je dis qu'il y a des personnes qui peuvent être réellement converties lors de telles rencontres parce que c'est Dieu qui sauve et c'est pas la méthode. Néanmoins, on est loin de ce que Jésus dit ici. On est loin de ce que Jésus dit ici. Le Seigneur lutte contre cette idée d'un christianisme émotionnel, d'un christianisme de l'instant qui se lève promptement pour s'éteindre bien souvent au premier coup de vent venu. Et les statistiques montrent parfois que les personnes qui se convertissent dans de telles conditions ne tiennent pas longtemps, parce que ce ne sont pas forcément de réelles conversions. Et il y a un auteur qui a dit que ce avec quoi on gagne les gens, c'est ce à quoi on les gagne. C'est-à-dire, si vous gagnez avec de la musique, bien vous gagnez les gens à la musique. Le jour où il n'y aura pas de musique, ils ne seront pas là. Mais si vous gagnez avec la parole, vous les gagnez à la parole de Dieu. Et ils vont rester fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, je pense qu'il est tranchant là-dessus. Il dit que le vrai disciple, être disciple, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de réflexion, quelque chose de cognitif, de raisonnable. Et il faut le considérer ainsi. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Le vrai disciple a une vie d'engagement réfléchi. On pourrait citer plusieurs exemples dans la Bible, mais je n'ai pas le temps d'en voir beaucoup. Mais Moïse, par exemple, hein, la Bible dit que Moïse, il a choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que dans la jouissance avec Pharaon. Et il dit, le texte dit en hébreu, qu'il estimait, ça c'est le calcul, ça veut dire qu'il a calculé, il a considéré les choses, il a fait un calcul, et puis il tire une conclusion du calcul qu'il fait. Il dit qu'il estime l'opprobre du Christ plus grand que les trésors et que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Oui. C'est-à-dire que l'attitude de Moïse n'est pas une question d'émotionnel, ah c'est Christ, non, il a réfléchi, il a estimé les choses, il a comparé le prix, la rémunération à venir, il a dit, il vaut mieux souffrir avec le peuple de Dieu maintenant et puis être avec Christ, souffrir l'opprobre maintenant que d'être pour un temps dans la jouissance de l'Égypte. Et puis donc, j'en rajouterai aussi pour ce second point que Jésus insiste donc premièrement sur l'émotion, sur, pardon, la nécessité de la réflexion plutôt que l'émotion, mais aussi sur l'achèvement plutôt que le commencement. Regardez ce qu'il dit ici, hein. Si vous lisez, par trois fois, le Seigneur Jésus évoque l'achèvement pour voir s'il a de quoi achever cette tour au verset 28. Puis regardez au verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et puis au verset 30, les gens vont se moquer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. L'achèvement plus que le commencement. Il est clair donc que Jésus met en évidence ici non pas le désir de bâtir une tour, hein, ni même le fait de commencer la construction, mais l'impérieuse nécessité d'achever la construction. L'enjeu du calcul n'est pas plutôt est de voir s'il a de quoi terminer. Il s'assoit pour calculer dans quel but, de voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Et c'est l'enjeu. Je veux dire que l'enjeu n'est pas ici une profession verbale, une impulsion initiale, on pourrait dire, mais une vie d'endurance et de persévérance. L'achèvement est le caractère de l'œuvre de Christ. Jésus a dit, je t'ai glorifié dans sa prière, Jean chapitre 17, sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et quand il était sur la croix, il a dit, le frère l'a rappelé tout à l'heure, il a dit, tout est accompli. D'accord. Donc l'achèvement caractérise l'œuvre de Christ. Et c'est aussi ce à quoi Jésus veut appeler son disciple, à aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous serez attiré par cette expression « jusqu'à la fin ». C'est une expression qui est importante dans l'Évangile. Hein. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que Jésus dit en Matthieu 10. En Hébreu 3, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux chapitre 6, verset 11-12 dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il faut calculer la dépense parce que les oppositions à la construction seront grandes. Et Néhémie il a rencontré de grandes difficultés, mais il a continué. Donc l'achèvement ici est quelque chose qui est important. Je dis, voilà, le disciple doit calculer la dépense. Il doit réfléchir à tout cela parce que le chemin est parfois long. Et il faudra persévérer. Il doit aussi donc considérer ces choses. Il faut, quand on parle d'achèvement, on parle de continuation, de continuité. Et le disciple porte sa croix quotidiennement. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il y a cette question de continuité. Il y a des gens qui disent, moi j'ai accepté Christ il y a 15 ans. Puis qu'est-ce que vous faites maintenant? Oh, oui. Mais je sais que je suis au Seigneur parce qu'il y a 15 ans, il y a une continuation dans la vie chrétienne. Il dit, il faut arriver jusqu'au bout. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais quand même, il nous dit qu'il faut arriver jusqu'au bout. Il faut exercer continuellement la foi. Il faut se repentir continuellement. Il faut demander pardon continuellement. Il faut renoncer à tout ce que l'on a continuellement. Il faut porter sa croix continuellement. C'est ce que Jésus montre ici. Dans le livre Le Voyage du Pèlerin, que vous connaissez certainement, John Bunyan, pense que vous avez lu, hein, presque tous ici peut-être. C'est une allégorie. Et si vous ne l'avez jamais lu, ben, lisez-le, hein, c'est très intéressant. Il parle d'un homme qui s'appelle Facile. Et Facile voyage avec chrétiens ou pèlerins, je crois qu'ils l'appellent pèlerins, ou chrétiens. Et donc, ils quittent la cité de la ville de la destruction, et puis ils vont vers le ciel, on va dire. C'est un peu l'image, hein, ici. Et puis, il s'attache au chrétien qui lui dit oui, voilà, et qui lui cite des passages de l'Apocalypse, qui lui montre comment sera la cité céleste. Il dit, waouh, c'est magnifique, c'est merveilleux ça, je veux y aller, etc. Et puis, sur le chemin, ils font un petit écart, et ils tombent dans ce qu'on appelle le bourbier du découragement. Et puis cet homme, s'appelle Facile, dit aux chrétiens, mais si ça commence comme ça, ton chemin pour aller au ciel, eh bien, je te laisse jouir tout seul de la récompense à venir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et il retourne à ce qu'on appelle la ville de la destruction, la cité de la destruction. Et parfois, on peut s'engager dans la vie chrétienne un peu comme cela, en pensant que c'est quelque chose de facile ici. Il dit, et on commence, mais on ne va pas jusqu'au bout. Comme cet homme, il commence, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom Facile, c'est facile, quand tant que c'est facile, ça va, et puis la première difficulté est venue, il abandonne, il n'a pas persévéré, il n'a pas calculé quel prix ça lui coûterait, et il a donc abandonné. Donc la vie chrétienne n'est pas un simple commencement, mais une persévérance et une continuation. Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que le temps est court, donc je vais juste dire quand même, troisièmement, que ce que Jésus montre néanmoins, c'est la nécessité de payer le prix de l'engagement. Ce qu'il dit ici, ça n'est pas pour décourager de devenir un disciple. On pourrait le penser quand on lit le texte. Vous pouvez dire à quelqu'un qui veut devenir médecin, il faut que tu saches que cela va te coûter beaucoup d'heures de travail, de privation, des livres à acheter. Voilà, pas de plage à Fréjus, etc., pendant que tout le monde sera à la plage, etc. Tu vas travailler, parce que les places sont extrêmement réduites et seuls les premiers sur des milliers seront admis. Si tu n'es pas prêt à tous ces sacrifices, il vaut mieux que tu fasses autre chose. Tu peux dire ça à quelqu'un. L'incidence sur sa vie, c'est qu'il ne sera pas médecin. Mais après tout, c'est pas grave. Mais Jésus n'est pas en train de dire, si vous voulez venir mon disciple, ça va vous coûter très cher. Alors je vous conseille de ne pas devenir mon disciple. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Hein. Il est en train de dire ça va vous coûter cher. Mais il n'y a pas d'alternative. Vous êtes mon disciple ou vous êtes perdu à tout jamais. Vous devenez mon disciple ou vous périrez en enfer. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ça coûte d'être un disciple. Mais il dit, ça vaut la peine d'être un disciple. Parce que être avec Christ dans la félicité éternelle, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce, je voudrais terminer là-dessus. Ce que Jésus dit, ça n'est jamais, jamais pour détourner les gens de le suivre. Même que ça paraît très dur. C'est toujours pour mettre les gens devant la réalité des exigences de l'Évangile. Pour les mettre devant la réalité de leur incapacité à suivre cet Évangile par leur propre force. Mais pour les mettre aussi dans cette réalité qu'ils ont besoin de venir à Christ et de le recevoir. Et quand Jésus dit cela, il dit « Si quelqu'un vient à moi, vous pouvez venir à moi, ça coûte cher. Mais c'est le seul chemin que vous puissiez prendre. » Parce qu'ailleurs, il ajoute « Celui qui sauvera sa vie, la perdra. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme ?» Il est en train de dire « Faut venir à moi. Il faut quoi ? Il faut placer votre confiance en moi. » C'est ce qu'il est en train de dire. Et il donne la capacité à celui qui vient à lui de vivre ces exigences que nous avons vues ici. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre ces choses. Mais le Seigneur Jésus donne à celui qui vient à lui la capacité de vivre ces exigences. Alors, si vous entendez cela ce matin, je vous en supplie, ne dites pas, oh, c'est trop difficile, il vaut mieux que je fasse autre chose. C'est parce que c'est difficile, certes. C'est pour que nous, Jésus nous le dit, pour que nous ne puissions pas tomber dans la facilité qui consiste à dire, je suis un disciple, et puis de vivre notre vie à côté. Il dit, c'est pas ça. Mais il dit, vous n'avez pas d'autre alternative que de me suivre et que de devenir mon disciple. Alors je vous en supplie, recevez Jésus-Christ dans votre vie si vous ne l'avez pas encore reçu. Le chemin est difficile, mais il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Quelle grâce d'être sur un chemin qui est difficile, mais d'être avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu créateur de toutes choses, qui veut nous accompagner, qui veut, comme on l'a lu ce matin, nous donner la vie, qui veut donner la vie à ses brebis, afin qu'elles vivent complètement. Je voudrais quelques mots de conclusion, si vous permettez, chers frères et sœurs. En parlant à la foule, Jésus s'adresse individuellement, vous voyez, à chaque personne. Il regarde la foule, mais il ne parle pas de manière collective. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, voilà comment il doit le faire. Il doit considérer ces choses. Et la foi authentique n'est pas une affaire de foule, n'est pas une question de collectivité, mais c'est un engagement personnel et total. La foi authentique aussi est une relation avec Jésus-Christ. On vient à lui pour être son disciple. Celui qui, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc il s'agit de venir à Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit ici. Le Seigneur Jésus a parlé de ceux qui sont ses disciples et il ne définit qu'une seule catégorie de disciples. Il ne parle pas de disciples de compétition et puis de disciples amateurs. Les compétitions, ils sont, voilà, eux, ils vont pouvoir souffrir, les autres qui peuvent vivre. Non, il n'y a qu'une seule catégorie de disciples. Et tous ceux qui sont disciples de Christ doivent considérer ces choses que Jésus dit dans ce discours-là. Et puis, je l'ai dit déjà, cet avertissement de Jésus n'est pas une invitation à ne pas commencer, mais une invitation à commencer de la bonne manière, en s'appuyant sur Jésus-Christ et en comptant sur lui. Je voudrais faire remarquer pour terminer que Jésus n'a pas peur de dire la vérité, même quand elle est difficile. Nous sommes parfois tentés, quand nous présentons l'Évangile, de cacher les choses peut-être pas très populaires. Jésus parle franchement, même si cela doit faire qu'il y en a qui s'en vont. Quand nous prêchons l'Évangile, nous devons dire la vérité de l'Évangile, ne pas cacher, ne pas essayer de regarder qui y a dans la salle et puis on va dire les choses pour ne pas trop brusquer les gens. On ne cherche pas à brusquer les gens, jamais. Mais on ne cherche pas non plus à cacher la vérité aux gens. Jésus ne cache pas la vérité, il dit c'est difficile, voilà ce que ça va être. Mais en même temps, il laisse la porte ouverte pour venir à lui. Et ne croyons pas que en arrangeant nous-mêmes l'Évangile, ça sera plus efficace, jamais. La parole de Dieu a sa puissance en elle-même, pas dans l'explication que nous en donnons. Donc présentons-la clairement, dans toute sa vérité, même si parfois cette vérité est difficile. Il faut pouvoir la dire avec amour. Aimer, c'est dire la vérité. aimer, c'est dire la vérité de l'évangile. Et nous, c'est notre responsabilité aussi en tant que disciples. Que le Seigneur nous aide à vivre ces choses, nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore pour ta parole. Et oui, nous pouvons mesurer parfois combien nous avons nos propres conceptions de ce que devrait être un disciple, comment nous voulons te suivre ou marcher avec toi. Donne-nous d'abandonner nos pensées et d'épouser ce que tu dis, toi, dans ta parole. Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Merci de nous racheter, faire de nous tes enfants et de nous donner par ton esprit la puissance de vivre comme tu nous le commandes. Seigneur, donne-nous d'accepter ces choses et de les rechercher même dans notre vie. Seigneur, je te prie pour des personnes qui ici ne te connaîtraient pas et qu'elles ne soient pas découragées par les exigences que tu places devant la pour le disciple, mais qu'elles puissent au contraire, Seigneur, venir à toi et te recevoir dans leur cœur, placer leur confiance en toi et découvrir que ce que tu commandes, tu donnes par ton esprit la puissance de l'accomplir. Seigneur, que ton esprit fasse ton œuvre dans chacun d'entre nous et que tu nous aides à vivre une vie qui t'honore, à marcher dans tes voies et selon ton exemple. Te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Amen.